Bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir sur l'initiative de l'Association des Amis de l'Institut, M. Bertrand Clavez, pour le début d'un cycle de conférences d'initiation à l'histoire de l'art contemporain. Bertrand Clavez est docteur en histoire de l'art, actuellement maître de conférences à l'Université de Rennes 2, Haute-Bretagne, spécialiste entre autres de Fluxus. Voilà, je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Voilà, je voulais commencer par remercier donc l'Association des Amis du Musée de l'IAC de m'avoir donné ce plaisir de revenir sur des conférences plus pédagogiques peut-être que celles auxquelles on est habitué une fois qu'on est universitaire et où on fait des colloques où il faut faire assaut de science et de culture et de choses comme ça. Et peut-être de temps en temps revenir à ces soucis de transmission qui parfois déstabilisent un peu nos étudiants quand on n'y prend pas assez garde, n'est jamais mauvais. Bien au contraire, c'est avec un grand plaisir que j'ai préparé ce cycle. Et puis, avec un plaisir non moins grand que je me suis replongé, on va dire, dans ces questions de peinture au XIXe siècle, qui, je dois le dire, ne sont pas directement ma spécialité. Comme Corinne vient de vous le rappeler, je m'occupe davantage de performances, de happening, et puis de mouvements néo-avant-gardistes tels que Fluxus, les actionnistes viennois, enfin des gens comme ça. J'espère que j'aurai évidemment l'occasion de vous présenter dans une conférence suivante. Et je discutais avec des jeunes femmes qui est ici ce soir en disant quel plaisir j'avais encore et toujours à retourner au Louvre, ce qui est un des privilèges évidemment des habitants de la région parisienne, sinon des Parisiens, et combien j'avais toujours du plaisir à retourner dans cette salle des maîtres français, dont une part des œuvres qui sont présentées ici ce soir sont exposées. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai pris comme première image de la conférence de ce soir une œuvre que je crois plus personne n'ignore naturellement aujourd'hui, qui est l'Olympia de Manet. Nous sommes très très loin des batailles qu'avait dû mener Monet après la mort d'Edouard Manet pour faire rentrer l'œuvre dans les collections publiques, par conscription d'ailleurs, dans la mesure où, justement, je disais bataille, mais cette fois-ci bataille l'auteur, dans l'ouvrage qu'il consacre à Manet, donne finalement la fonction symbolique que nous attribuons à ce tableau par une phrase très simple qui dit ceci: « Nous entrons dans un monde neuf et le rideau s'ouvre sur Olympia. » C'est-à-dire que dans l'analyse que formule Bataille, Olympia est véritablement la borne, la porte d'entrée, le moment exact où la modernité en peinture trouve à s'incarner dans une image, une image complète, totale, qui est à la fois ce qu'elle est en tant qu'image, au sein du tableau, et comment est-ce qu'elle fonctionne comme miroir des représentations de son temps, en l'occurrence par la provocation, par le scandale, sans doute, mais aussi par l'indice qu'elle introduit dans le débat sur l'art à ce moment-là. Donc Manet, et plus spécifiquement Olympia, peut-être encore davantage que le déjeuner sur l'herbe qu'il avait montré au Salon des Refusés à la précédente session, donc le salon était biennal à l'époque, et donc ce sont les années impaires, donc c'est 1863 pour le déjeuner sur l'herbe, 65 pour Olympia. C'est pourquoi j'ai mis les deux dates, hein, parce qu'en fait Olympia est commencé en 1863 mais n'est dévoilé au public qu'en 65, enfin bref. Donc le tableau de Manet accroché au salon de 65 a sans doute été le tableau qui a été le plus éreinté par la critique et le plus vilipendé par le public. En cela, peut-être également, Olympia est un exemple, ou en tout cas un prototype, de ce qui est attendu de la réception du tableau moderne. C'est Léon Leroy, qui était un critique d'art, qui travaillait au Grand Journal à l'époque, qui disait que Manet avait voulu épater le bourgeois, que c'était vraiment quelque chose de très caractéristique de sa peinture depuis le Déjeuner sur l'herbe. C'était cette espèce d'horizon d'attente d'une réception volcanique, polémique, contradictoire, qui serait finalement l'origine véritable de sa peinture, bien plus que ce que pouvaient être ses intentions de peintre. Je disais une réception violente. En effet, il suffit de lire un florilège des critiques du salon de 65 pour en avoir quelque idée. Une femme sur un lit, ou plutôt une forme quelconque, gonflée comme un grotesque en caoutchouc, une sorte de guenon grimaçant la pose et le mouvement du bras de la Vénus du Titien, avec une main impudiquement crispée, une négresse, un chat noir, tout maigre d'échine qu'il soit, n'en faisant pas moins le gros dos, complète cette vision du sabbat. Une autre, Amédée Cantaloube, cette Olympia, sorte de gorille femelle, de grotesque en caoutchouc cerné de noir, singe sur un lit dans une complète nudité, l'attitude horizontale de la Vénus du Titien. Le bras droit repose sur le corps de la même façon, sauf la main qui se crispe dans une sorte de contraction impudique. Dans Le Monde illustré, qui moque le poème qui accompagne le tableau. L'auguste jeune fille est une courtisane aux mains sales, aux pieds rugueux. Elle est couchée, vêtue d'une babouche et d'une cocarde rouge, son corps à la teinte livide d'un cadavre exposé à la morgue. Ses lignes sont destinées au charbon et ses yeux éraillés et verdâtres ont l'air de provoquer le public sous la garantie d'une hideuse négresse. Ça s'empire. Ernest Chenot, qui publie dans Le Moniteur, qui est un journal conservateur. C'est un élément important, je pense, parce que Chénaud va se mettre à imaginer franchement des choses qui ne se trouvent pas dans le tableau. Voilà. Quand lasse de songer, c'est ce que disait le livret. Quel vers, quel tableau, Olympia s'éveille, lasse de songer. La nuit a été mauvaise, c'est évident. Une insomnie panachée de coliques en a troublé la sérénité. Son teint l'indique. Il y a deux messagers noirs. Un chat qu'une circonstance malheureuse a aplati entre deux tampons de chemin de fer. Une négresse qui n'a rien de pareil à la nuit amoureuse, si ce n'est un bouquet acheté chez le fleuriste du coin et dont M. Arthur a fait les frais, ce qui m'en apprend très long sur Olympia. Arthur est certainement dans l'antichambre qui attend. Enfin, Lorenz, qui, je pense, est le plus violent. Un squelette habillé par un maillot collant de plâtre, cerclé de noir comme une armature de vitrail sans verrerie, et qui, à l'horrible de tant de sottises et de laideurs, adjoint la disparition d'un doigt qui appelle à grands cris l'examen des inspecteurs de la salubrité publique. Alors, évidemment, vous pouvez compter, Olympia a tous les doigts de sa main gauche, puisque c'est bien de cette disparition-là que parle Lorenz, c'est-à-dire projetant sur la peinture de Manet un certain nombre de fantasmes qui accompagnent la confrontation du public de 1865 avec cette œuvre. Alors, on ne comprend pas très bien aujourd'hui ce qui peut amener le public à réagir avec une telle violence, puisque Manet et l'Olympia singulièrement a très nettement perdu de sa superbe polémique, en quelque sorte, et nous semble bien plutôt former un ornement tout à fait satisfaisant d'une boîte de chocolat à Noël. Et surtout, le reproche qui est fait manifestement à Olympia, c'est celui d'une pornographie. Au sens littéral, c'est-à-dire d'une écriture prostituée, puisque Pornaille, en fait, c'est la prostituée grecque de plus bas étage. Hein. C'est celle qui n'est pas maître de son corps, contrairement à l'Étaïre. Enfin, bon, bref, peu importe, je ne vais pas vous faire un cours sur la pornographie grecque, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Mais on a littéralement affaire à une pornographie, c'est-à-dire à la description réaliste, bien que inscrite dans un modèle iconographique qui est parfaitement repéré par les critiques d'art de l'époque, c'est-à-dire celui de la Vénus d'Urbino du Titien, une description donc réaliste de la vie ou de des mœurs d'une demi-mondaine, d'une courtisane, enfin selon la terminologie habituelle. Pourtant, la nudité et le jeu sur la nudité, l'évocation de la prostitution ou des appétits insatiables de satires divers, des écarts de génération ou d'âge entre des jeunes filles nubiles et des vieux grigous obsédés, etc., sont monnaie courante, en fait, dans la peinture. Ils sont monnaie courante et sont parfaitement acceptées dans la peinture académique. Par exemple, l'année où Manet présente le déjeuner sur l'herbe, qui fait scandale parce que Victorine Meurant, qui est également le modèle ici, et puis qui est son modèle fétiche, du moins pendant plus de 10 ans, pendant près de 15 ans en réalité, au gré d'une relation amoureuse plus ou moins tumultueuse. Victorine Meurant, donc, est la jeune fille qui tient une conversation, comme le dit le roi à nouveau, qui a décidément le trait de génie pour la critique, nous dit que deux jeunes gens habillés de velours conversent esthétique avec une jeune femme habillée de sa vertu. Voilà. Le mot est joli. La confrontation donc, entre les costumes modernes des protagonistes et la nudité, inscrivant donc le déjeuner sur l'herbe dans l'époque contemporaine, avait déjà naturellement posé problème, mais jamais au point donc, de l'Olympia. Et au même moment où le salon donc, des refusés, enfin, refusait Manet et le montrait au salon des refusés, le salon officiel accueillait cette superbe baudruche de caoutchouc qui est la naissance de Vénus de Cabanel, d'Alexandre Cabanel. Cabanel qui est à l'époque un peintre académique au sommet non seulement de son art, mais de sa carrière et de ses responsabilités. C'est d'ailleurs un de ceux qui statuait au jury de 1863, refusant donc près des deux tiers des œuvres. Il y a eu 5000 refusés, je crois, au jury de 63, si mes souvenirs sont bons. Cabanel, donc, nous présentait une Vénus dont j'ai l'habitude de dire qu'elle évoque ces pages centrales, vous savez, de revues que l'on basculait comme ça vers l'adolescence pour mieux en profiter. Mais tout y est. La pose, le contrapposto, donc cette torsion des plans entre la hanche, enfin entre les hanches et les épaules, qui permet de montrer à la fois le pubis et la poitrine dressée, ce raccourci extraordinairement impudique, qui fait que littéralement son pubis jaillit vers le spectateur, tandis que ce qui pourrait l'identifier, ce visage, vient se nicher au creux des bras et puis s'éloigne de nous. Elle n'est qu'un corps livré à notre concupiscence. La tonalité rose est, alors qu'on ne voit pas vraiment avec le vidéoprojecteur, j'en suis navré, on essayait de régler un peu, mais bon. Le ton de la chair est très rose, le bleu du ciel est beaucoup moins céruléen que cela, enfin ne déparerait pas de ces séries de photos pornographiques qu'avait fait Jeff Koons avec son épouse, la Cicciolina, dans les années 90, hein, Made in Heaven, que je vous présenterai peut-être une autre fois, mais c'est-à-dire qu'on a, dans l'érotisme de Cabanel des éléments visuels iconographiques, chromatiques, de notre définition contemporaine de la pornographie. Et Cabanel, sa naissance de Vénus, est encensée, elle est médaillée, elle ne pose aucun problème. Donc on a affaire, en réalité, à un horizon d'attente, à une réception de l'œuvre d'art dont nous n'entendons plus grand-chose aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous semble à la fois extraordinaire et singulier que nous expérimentions une telle inversion de l'échelle des valeurs. Olympia, avec sa frontalité, son espèce de geste pudique, comme les Vénus pudiques de l'Antiquité, qui est celle qui cachait leur sexe de leurs bras, manifeste aujourd'hui bien davantage qu'un statut social son identité de modèle, c'est-à-dire l'incarnation qu'elle atteste de la fonction picturale essentielle qui est la représentation. Bien au contraire, Vénus de Cabanel, à force de dépersonnalisation de l'idéal de la beauté classique, ne nous apparaît plus que comme une identité strictement sexuelle. Ces enjeux ont été nombreux, singulièrement autour du Second Empire, puisque, vous voyez bien, 1861, 63, 65, enfin, on est au cœur de ce qu'on a appelé la fête impériale, celle qui, avant la maladie de l'empereur, la prise d'influence, en tout cas grandissante, de son épouse au fur et à mesure qu'il déclinait, et puis une fois les problèmes républicains succédant au coup d'État de 1851 à peu près réglés, on est vraiment donc dans cette période culminante du Second Empire. Cette période culminante du Second Empire pose systématiquement dans les salons, depuis 1859 en tout cas, même 57 si on intègre la Nicia de James Pradier. Je n'ai pas parlé parce que c'est de la sculpture et j'ai voulu me concentrer sur la peinture. Donc met en avant cette question essentielle de la prostitution, de la possession du corps de la femme et de la justification en quelque sorte artistique d'un système de vie bourgeois que partagent d'ailleurs les artistes qu'ils soient académiques ou réalistes ou romantiques ou futurs impressionnistes d'un mariage qui est essentiellement une stratégie d'alliance économique et de plaisir qui se trouve par des concubinats tarifés. Ici, Jean-Léon Gérôme, dont vous avez peut-être pu visiter l'extraordinaire exposition de l'an passé au musée d'Orsay. Jean-Léon Gérôme, donc au salon de 1861, présente une image quand même assez singulière, qui est Frinet devant l'aréopage. Frinet, alors pour le coup, est une étaïre, c'est-à-dire qu'elle, le personnage lui-même. Est une prostituée, certes de très haut rang, mais une prostituée tout de même, dont la fortune était si colossale qu'elle avait pu proposer de reconstruire à ses frais les murailles de la ville de Thèbes, une fois qu'Alexandre les eut rasées. Donc Frinet, qui est soupçonné d'introduire un culte étranger dans Athènes, au sein des prostituées d'ailleurs, est convoqué devant les Héliastes, donc les magistrats, et son avocat, qui est également son amant, enfin l'un de ses amants, finit par dévoiler sa poitrine. Ça, c'est le texte. Et les Héliastes, reconnaissant sa beauté surhumaine, et de fait, je parlais tout à l'heure des Vénus pudiques, elle a servi à la Vénus pudique, le modèle à la Vénus pudique de Praxitèle, qui était un autre de ses habitués, reconnaissant donc la beauté surhumaine de Phryné, estime qu'elle ne peut être protégée que par Aphrodite et que finalement la condamnée serait offensée la déesse, délibère que la beauté est dès lors une vertu en soi et l'absolve. Bon. Alors, Jean-Léon Gérôme, qui est un peintre on ne peut plus académique, enfin, qui a fini à l'Institut avec une série de photographies où il est très âgé, qui sont désastreuses. Enfin, il est en costume d'académicien, tout ça. Après avoir passé 20 ans à perdre tout son crédit, à lutter de toutes ses forces sur la fin de sa vie contre les impressionnistes, en estimant que c'était le déshonneur de l'art français. Enfin, bon. Jérôme, qui, en son temps, fut l'artiste le plus cher du marché, l'artiste vivant le plus cher, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de Damien Hirst aujourd'hui, ce qui laisse augurer d'ailleurs d'une postérité de Damien Hirst assez intéressante, du moins dans les livres d'histoire de l'art. C'était tout le malheur que je lui souhaite, d'ailleurs, Damien Hirst, entre nous. Enfin bon, passons, c'est pas le sujet, mais enfin voilà. Jean-Léon Gérôme, donc, s'affranchit totalement du respect scrupuleux des textes que doit incarner quand même la peinture de l'Académie. Outrepassant finalement le geste indiqué par les textes antiques, dévoile totalement Phryné. Cette exagération du dévoilement de Phryné, cette liberté prise vis-à-vis des sources textuelles, c'est difficile à dire sans contrepétrie involontaire, sans lapsus, hein, vis-à-vis des sources textuelles, donc, et la marque que l'intention de l'antique, la leçon de vertu de la peinture d'histoire, celle qui fait que Brutus ne peut même pas regarder le corps de ses fils ramené par les licteurs, hein, chez David, qui donc a dû les mettre à mort puisqu'il voulait attenter à l'État, n'est devenu ici qu'un prétexte galant, et que cette narrativité qui est attachée à la peinture depuis la Renaissance est devenue le prétexte à toutes les parodies imaginables. Donc lorsque Manet joue avec la Vénus du Titien, il n'est pas davantage dans l'excès du modèle, dans la désacralisation de la tradition, que ne peuvent l'être Cabanel ou Jérôme. Ce n'est pas vraiment une question de degré. Ce n'est pas vraiment une question de liberté, en quelque sorte. C'est une question de convention. Que l'Antiquité serve hypocritement aux peintres, depuis au moins Titien précisément, à présenter à des acheteurs plutôt âgés des jeunes filles plutôt très belles, n'est pas très récent. Je reviendrai plus tard sur l'origine du monde, si vous le permettez. Et Jérôme, pour continuer sur son travail, l'âge avançant, affirme de plus en plus évidemment cette espèce de lien érotique terrible qui se trouve entre le modèle et son peintre ou son sculpteur ici avec Pygmalion et Galatée. affine de plus en plus les limites entre ce que la scène représente et ce qu'il nous dit qu'elle représente, puisque ici, finalement, n'était-ce le titre et peut-être les masques de comédie qui sont en arrière-plan, mais enfin que l'on trouverait dans n'importe quel atelier de peintre néoclassique du 19e, la scène pourrait parfaitement être contemporaine. Et dans d'autres versions, Jérôme n'hésite pas à se représenter sculptant le modèle, son Pygmalion et Galatée accroché derrière lui sur le mur de l'atelier, inscrivant donc dans cette image la continuité qu'il voit entre ces êtres de marbre et leur devenir de chair, entre l'être de chair qui prélude et le désir qui exsude littéralement de la représentation. Alors, peut-être que l'une des images les plus caractéristiques de cette dissolution du sujet de la peinture, dissolution à tous les sens du terme ici en l'occurrence, et cette peinture assez étrange et tout à fait extraordinaire de Giraud des Triaussons, qui s'intitule Mademoiselle Lange en Danaé, qui a une histoire, ses origines sont d'une banalité affligeante. C'est une vengeance, cette peinture. C'est une vengeance dont Giraudet a assumé les conséquences jusqu'au bout, puisque c'est une vengeance qu'il a exposée au Salon de 99. Mademoiselle Lange était une comédienne de l'époque, donc de la période du Directoire, qui a eu un certain nombre de difficultés personnelles parce que c'était une merveilleuse. Vous savez, c'était les... Comment dire ? L'équivalent des azous, en quelque sorte, hein, les incroyables et les merveilleuses. Il ne fallait pas prononcer le R, incroyable, puisque le R, c'était évidemment et le roi assassiné et la révolution triomphante. Donc, d'un côté comme de l'autre, il fallait éviter cette lettre. C'était la caractéristique des incroyables. Et était une merveilleuse. Et donc, à partir de cette espèce de dandysme extraordinaire des merveilleuses, en pleine période de troubles révolutionnaires, enfin, c'est même pas encore le consul, le consulat, Thermidor s'achève à peine, enfin, c'est très compliqué. Mademoiselle Lange s'est donc commis dans des pièces qui exprimaient une certaine nostalgie pour l'aristocratie. Elle en a été enfermée à Sainte-Pélagie. Enfin bon, bref, une série d'aventures comme ça, dont elle s'est toujours sortie en couchant. C'est un mystère pour personne. Et après tout, parfois ça marche. Moi-même d'ailleurs, si je pouvais, sans doute. Elle a manifestement bien mené son affaire, puisque elle a fait construire un hôtel particulier dans les années 1895-1896, vous voyez, donc 1700, pardon, 95-96, à un moment donné où il y avait quand même peu de gens qui construisaient quoi que ce soit dans Paris. Et Giraudet, donc, a fait un portrait d'elle qu'elle a refusé. Et ça a terriblement vexé Giraudet, qui par ailleurs était une âme très sensible, très torturée, dont la peinture d'ailleurs reflète, enfin, quand on la voit, parce que là vraiment on voit rien, hein, je suis navré, dont la peinture reflète donc assez bien cette personnalité ambiguë. C'est que c'est une peinture qui est comme cuivrée. pouvez regarder, par exemple, son rapte de Ganymède ou son songe d'Endymione, avec donc toute une iconographie homosexuelle qui est assez exceptionnelle pour l'époque. Et Mademoiselle Lange ne déroge pas à la règle. Ça évoque tout à fait ces peintures de miniatures sur porcelaine. Vous voyez, c'est vraiment cette tonalité-là très particulière qui est assez spécifique à Giraudet. Et donc, Giraudet, pour se venger de l'insulte, de l'offense faite par Mademoiselle Lange, récupère les études qu'il a faites pour son portrait et la campe en Danaé. Alors, Danaé, évidemment, c'est une figure antique tout à fait intéressante, puisque Danaé, dont le fils devait être assassiné, le père de Danaé, a été enfermé donc, dans une tour, mais Jupiter en était tombé amoureux, et donc il l'a fécondé par une pluie d'or. Évidemment, la pluie d'or étant la rétribution d'une fécondation réussie, ou en tout cas de sa parodie, Mademoiselle Lange recueille précieusement la pluie d'or. Elle a même tendu un drap pour être sûre de n'en perdre aucune de ces manifestations. Et cette pluie d'or n'est pas une pluie d'or pulvérulente comme dans le texte, mais de monnaie sonnante et trébuchante. Trébuchante à telle enseigne, d'ailleurs, que là, dans le noir, là où vous ne le voyez pas, donc, se trouve un masque de grotesque qui est en fait le portrait d'un de ses amants de l'époque, tandis que son mari ici est symbolisé par un dindon, puisqu'elle est mariée, hein, symbolisé par un dindon, le dindon de cette farce naturellement, mais qui porte des plumes de paon sur la queue. Voilà. Donc un tableau qui est quand même d'une violence terrible, puisque tout le monde reconnaît Mademoiselle Lange, qui est très célèbre. Enfin, c'est l'équivalent de je ne sais quelle star d'aujourd'hui. Tout le monde identifie largement et facilement les divers symboles, tels que cette colombe blanche qui est tenue par une laisse, hein, d'une laisse très courte qui la prend sur le cou, et dont les ailes sont blessées, du sang qui s'échappe ici, sont blessées par la chute d'une de ces pièces d'or. Enfin, voilà, Giraudet veut être sûr que tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Donc cette érotisation bontin, dont il est assez facile de faire un peu d'humour comme ça, est une pratique non seulement acceptée, mais valorisée pour les peintres. Et pour les peintres, encore une fois, les plus académiques, y compris Ingres, y compris ceux qui se drapent ou se parent des vertus les plus élevées de l'art. Ce petit tableau, enfin non, en fait, il est très grand, mais bon, peu importe, ces jeunes Grecs faisant un combat de coq, la critique de l'époque souligne quand même que la pratique du combat de coq n'est pas tellement attestée par les textes, mais enfin, la scène est charmante. Et puis, l'image est agréable de ces jeunes gens à peine pubères contemplant la férocité du combat entre deux coqs. Donc, en fait, si Manet prend cette liberté extraordinaire, c'est simplement qu'il donne le coup de grâce à ce sujet prétexte. C'est la longue suite des parodies antiques qui l'amène finalement à pouvoir justifier ou faire exister cette image d'un nu contemporain. Puisque ce qui choque finalement profondément le public, ce n'est pas tant que Victorine Meurent soit nue, c'est qu'elle soit Victorine Meurent. C'est qu'elle nous regarde. c'est qu'elle n'ait pas les yeux cachés dans ses bras, comme la Vénus de Cabanel ou la Phrynée de Jérôme, qu'elle ne tourne pas le dos ou qu'elle ne soit pas si occupée à se contempler ou qu'elle ne baisse pas les yeux de façon pudique, habillée de sa vertu, disait le critique tout à l'heure. Manet, finalement, ne fait que prendre acte d'une histoire déjà morte, de longue date, celle des catégories du genre, celle de la grande tradition. Celle finalement d'une espèce de faux-semblant qui prévalait à l'essentiel de la peinture officielle depuis la Révolution. Puisque je parlais de David tout à l'heure très rapidement, je ne faisais que l'évoquer, mais enfin, et David avant la Révolution et puis ensuite pendant même, David a, dans son travail sur le néoclassicisme, a à la fois profondément bouleversé l'iconographie antique ou à l'antique, en introduisant de nouveaux sujets à cette iconographie antique. J'évoquais tout à l'heure Brutus, mais on pourrait évoquer bien d'autres tableaux. Et en même temps, a participé à construire des images de cette antiquité qui valaient par l'exactitude archéologique des objets qui y étaient représentés, ce que l'on pouvait voir tout à l'heure également dans la Phrynée de Jérôme. On a en permanence cette espèce de souci obsessionnel du détail archéologique, de la cohérence des objets les uns par rapport aux autres, du chronotope en quelque sorte, c'est-à-dire que à la fois le décor, à la fois les objets, les statues, l'ensemble des éléments qui sont représentés par le peintre soient cohérents avec l'époque représentée. Pardon. Donc David a à la fois profondément changé cette iconographie de l'Antiquité et en même temps a été celui qui, sous l'Empire et à partir de son implication politique dans la Révolution, a tenté de formuler ce que pourrait être un héroïsme pictural contemporain. Le sacre, le jeu de paume, le marat, pourquoi pas. C'est-à-dire voir ce qui, dans les situations contemporaines, dans leur mise en image, pouvait rejoindre la grandeur de l'imagerie antique. On a eu toute une série de tentatives très intéressantes au cours du XIXe siècle, et en particulier du début du XIXe siècle, sous l'Empire et au moment de la Restauration, d'un héroïsme ou d'une peinture d'histoire contemporaine. Antoine Jean Gros en est sans doute l'un des meilleurs représentants. Et là, j'ai choisi donc de vous montrer Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, parce que Gros y mêle ce qui a fait son succès, d'ailleurs auprès de Bonaparte et surtout de Joséphine. Il mêle donc une image, un orientalisme en tout cas très très affirmé. Mais l'idée qui est derrière ces images, outre évidemment la glorification du rôle de Napoléon, bon, qui est une évidence. L'idée, c'est qu'il peut se trouver dans l'espace contemporain de ce 19e, des lieux, des moments dans lesquels l'Antiquité se trouve révélée, dans lesquels elle existe pleinement de nouveau, dans lesquels on peut à la fois parler du présent et à la fois construire des images à l'antique. Et l'Orient, de ce point de vue-là, représente une source inespérée de draperies, de corps dénudés, d'ambiance de harem et de bain turc, de cette lascivité antique directement idéale qui va attirer puissamment les peintres de la première moitié du XIXe siècle. Et la peinture d'histoire, cette peinture de grand genre, celle qui dominait avant la Révolution et en grande part pendant la Révolution également, celle qui dominait donc l'ensemble des catégories de la peinture, va en quelque sorte tenter de trouver le moyen de dire les bouleversements politiques et historiques extraordinaires que les artistes auront à traverser dans ces périodes-là, par des artifices tels que, en effet, ces janissaires, ces tribus maghrébines que Napoléon soumettra, ou même ces Grecs qui, dépenaillés par leur lutte contre les Turcs, finissent directement en image antique dans les massacres de Scio, par exemple, de Delacroix. Ce qui peut-être survient de ces tentatives, c'est la formidable dévaluation de la dimension morale de l'imagerie ou de l'image du grand genre, de l'image de la peinture d'histoire. C'est ce que l'on a vu déjà dans ces peintures galantes de la première partie de cet exposé. Mais c'est ce que l'on voit également ici avec Pollice Verso de Jérôme, qui est une scène à la fois grandiose par sa construction, par sa perspective en particulier, mais absolument ignoble et obscène par son sujet, puisque c'est à la plèbe, à la populace la plus vile de Rome, que tient la vie du gladiateur mis à terre. Hein, c'est ce moment précis où il faut le laisser vivre ou produire un meurtre. Une scène qui eût été inimaginable au XVIIIe siècle. Cette violence de l'image tente de sauver, en quelque sorte, le prétexte historique, tente de sauver la possibilité d'un sujet pour l'image, qui soit le sujet, le support d'une narration. En réalité, la peinture d'histoire avec un grand H est devenue une peinture anecdotique au cours du XIXe siècle. Une peinture qui a maîtrisé de mieux en mieux les moyens spectaculaires, au sens pratiquement de Bordien du terme, de l'image, qui s'est appuyée de plus en plus sur ces moyens spectaculaires pour tenter de cacher finalement la déflation extraordinaire, enfin jamais produite auparavant, de ce qui était la définition même de la peinture d'histoire, c'est-à-dire son caractère édifiant. La peinture d'histoire, c'est une histoire parce que c'est d'abord une leçon. C'est une leçon de vertu, c'est une leçon de morale. Et donc elle a cette dimension édifiante que les images de Jérôme ont définitivement perdu. Alors, il y a quelques anciens étudiants à moi dans la salle, donc ils savent que j'affectionne particulièrement le radeau de la Méduse, qui, parce que pour moi, c'est vraiment, finalement, en fait, le premier tableau moderne. J'avais commencé avec Manet, hein, en rappelant combien Bataille en avait fait le point central de la modernité. Personnellement, je déplace ce point d'entrée, plutôt que de point central, ce point d'entrée vers le radeau de la Méduse. Je le déplace parce que Géricault produit une peinture qui est à la fois extrêmement sérieuse et engagée, n'en doutons pas. Il l'a produite dans des conditions personnelles tout à fait désastreuses, enfin de tensions psychologiques extrêmes. Puisqu'il avait dû se séparer de son amante, enfin de la femme qu'il aimait, qui par ailleurs était sa tante, alors bon, c'était toujours un peu compliqué, d'autant qu'il l'avait mise enceinte. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Donc il avait dû quitter évidemment l'hôtel de son oncle qu'il avait chassé après d'avoir découvert son infortune. Et Géricault donc s'est mis à travailler sur le radeau au moment de cette crise, enfin juste après, en fait. Et il a peint le tableau à une vitesse extraordinaire, entièrement seul. Donc c'est un tableau immense, hein, ça fait, je ne sais plus, 5 mètres par 7, en gros. J'ai l'habitude de dire que ça fait un très bel appartement parisien, quoi. Il est passé par toute une série de phases autour de ce tableau, y compris des phases d'un réalisme très cru. Hein. Phases préparatoires durant lesquelles donc, il a subtilisé, grâce à des amis carabins, subtilisé donc, des fragments anatomiques de la faculté de médecine, des bouts de cadavres, qu'il a mis à macérer dans son atelier. Alors, c'était le mois d'août, vous voyez. On a des tas de témoignages de ses amis qui disent que fréquenter sa rue est devenu insupportable, qu'il y a des odeurs d'abattoir. Enfin, c'est absolument abominable. Et il peint donc ces natures mortes. Il en fait une petite série afin d'étudier le processus pictural de la décomposition des chairs. Donc il y a un souci de réalisme et en même temps une morbidité formidable qui correspond à ce moment de crise aussi que lui-même traverse. Et ce n'est que progressivement, après avoir dominé quand même cette pulsion morbide, violente, que il va commencer à pouvoir penser le radeau de la Méduse un peu différemment des moments, enfin de la représentation de ces moments les plus violents. Alors, très rapidement, la Méduse, c'est une affaire d'État, c'est un scandale politique qui éclate dans les premières années de la Restauration, donc c'est 1816, c'est le naufrage d'une frégate au large de l'Afrique, les responsabilités du naufrage sont dues essentiellement à une méfiance réciproque entre l'équipage et ses commandants, et en particulier le commandant de l'escadre, donc de Chaumaret, qui est inexpérimenté et qui se méfie de son équipage, qui est un équipage rompu aux guerres napoléoniennes, si vous voulez. Ils ont affronté Nelson, tout ça, enfin bon. Et lui pense que son équipage veut le mener à sa perte, et eux pensent qu'il est totalement incompétent, ce qui en l'occurrence est vrai, mais peut-être qu'il n'avait pas tort en pensant que son équipage voulait le mener à sa perte par ailleurs. Et bref, de Chaumaret s'échoue sur le banc d'Arguin, qui est connu depuis l'Antiquité à peu près, puisqu'on y pêche la morue au moins en Occident depuis 10 siècles, donc il n'y a pas de problème. par beau temps, mer calme, et décide l'abandon du navire au lieu d'essayer de l'alléger ou de le désenchouer, enfin de faire des manœuvres à peu près cohérentes. Sauf que, comme dans le Titanic, puisque c'est très à la mode en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qu'il n'y a de place dans les chaloupes. Et donc on construit un radeau sur lequel embarquent entre 150 et 200 personnes, qui est pris en remorque par les chaloupes. Et on va vers la côte de l'Afrique, qui n'est pas très loin, qui est une vingtaine de milles en fait. C'est-à-dire 40 km, un peu moins. Et puis alors pendant la nuit, la remorque, enfin le câble du radeau cède. Et au matin, les occupants du radeau sont seuls sur l'océan. Les autres ont taillé la route. Voilà. Donc évidemment, les républicains, vous avez compris, sont sur le radeau. Et puis, les légitimistes sont dans les chaloupes. Hein, voilà. Les choses sont claires. Et ils vont dériver 3 semaines, en gros. Et au bout de 3 semaines, ils ne sont plus que 15 à bord. Alors, il s'est passé des tas de choses. C'est-à-dire que... dans la bonne tradition de l'époque, ils se sont méfiés de l'eau, donc ils n'ont emporté que du vin. Et très rapidement, ceux qui avaient des armes, c'est-à-dire les militaires, ont déclenché une mutinerie pour s'emparer du vin et de la cantinière, qui a fini à l'eau. Enfin bon, bref, passons. Et puis après, une fois qu'ils étaient ivres, ils se sont massacrés entre eux. Et puis ceux qui n'avaient pas pu boire en ont profité pour en zigouiller quelques-uns. Enfin, vous voyez, ça a été tout à fait. Puis après, ils sont morts de maladie, de scorbut, de soif, de faim, enfin de tout un tas de choses. Bref, ils étaient 15 quand on les a retrouvés, enfin un peu moins, 13 je crois. Et surtout, image suprême de l'horreur, ils s'étaient livrés à l'anthropophagie pour survivre. Et comme c'était des hommes de goût et puis qu'ils avaient un peu d'expérience dans la survie, ils avaient mis à boucaner les lambeaux de chair au soleil, vous voyez, parce que la viande crue quand même, c'est pas terrible. Donc, lorsque l'Argus les a trouvés, enfin, le navire Aviso qui les a récupérés, tous les haubans du radeau étaient couverts de lambeaux de chair en train de cuire au soleil. Bon. Alors, évidemment, scandale, parce qu'il y avait cette histoire entre les grognards, enfin, les républicains, les impériaux, et puis les légitimistes, voire même les ultra-légitimistes. Et Géricault s'empare de ce sujet, alors que de Chaumaret voit son procès arriver. Et que Coréard, qui se trouve... ici, c'est lui, voilà, qui était le médecin du bord, a publié une relation, c'est-à-dire un rapport sur le voyage du radeau de la Méduse, enfin sur le radeau de la Méduse, relation qui a été immédiatement interdite et censurée, mais dont Géricault avait pu obtenir un exemplaire, et sur lequel il s'est appuyé pour faire toute une étude documentaire dont il n'a gardé aucune trace, du moins dans le tableau final. À part, en effet, certains des personnages qui étaient dessus et qui sont venus poser pour lui dans l'atelier. L'image que nous avons est littéralement une scène de théâtre. Elle n'a rien à voir avec cette vision infernale que tous les témoins de l'arrivée du radeau sur le bateau ont pu décrire. Nous avons affaire à, certes, un groupe d'hommes... cernés par les cadavres, dont certains semblent un peu incomplets. Hein. Absolument rien de réaliste là-dedans. Bien au contraire. Bien au contraire, nous avons une série de corps héroïsés, des musculatures saillantes, des contrats postaux tout à fait caractéristique du travail d'atelier. On peut presque voir ici, vous voyez, les petits cubes, les cales qu'on place sous les modèles, et puis cette inénarrable lumière du nord à 45 degrés qui permet d'avoir une répartition lumineuse et un modelé des masses parfait. On a une fabrique, d'atelier. On a les vocations, finalement, d'un poussin maritime. Vous voyez ? Avec tout un tas d'astuces, typiquement 19e, par exemple, le fait de présenter le radeau en biais, ce qui permet de créer deux points de fuite différents. Un peu comme dans les comics Marvel, vous savez, quand le Silver Surfer arrive et vous avez tout ce qui s'éloigne sur deux points de fuite, voire trois points de fuite. Voilà. C'est-à-dire, là encore, un système de foire. Mais littéralement, ce qui inspire Jéricho, ce sont les panoramas qu'il a vus à Londres. Ce sont ces images sensationnalistes. Simplement, là où le panorama de Waterloo ou d'Eylau, enfin des grandes batailles napoléoniennes ou de ces grandes défaites d'ailleurs plutôt à Londres, vise à une espèce d'exactitude documentaire, et on comprend mieux pourquoi Jéricho s'était tant renseigné au départ sur le déroulé réel du naufrage de la Méduse, enfin de l'Odyssée du radeau. Au lieu donc d'avoir une représentation réaliste de ce radeau, nous en avons une représentation clairement idéalisée, héroïsée. Sauf que cette héroïsation, alors qui est construite, rapidement. Hein, on a un mouvement ici ascendant. Jéricho s'appuie sur nos bons vieux réflexes anthropomorphiques occidentaux. Donc on va entrer ici par la gauche, suivre cette courbe ascendante jusqu'au chiffon rouge agité par le nègre Joseph, et puis au moyen d'une série de mouvements de membres, hein, vous voyez, qui véritablement guident le regard comme de façon aussi certaine qu'un rail de chemin de fer. Hein. On commence donc par la nature menaçante avec cette lame ici qui s'apprête à s'abattre sur le radeau. D'ailleurs, lui-même se dirige de façon... tous ceux qui ont fait un minimum de voile et ont essayé de faire virer de bord un optimiste savent qu'ils vont vers la vague, hein, y a pas de souci. Mais enfin, notre regard oublie rapidement cela pour aller vers cette trouée de lumière dans un ciel par ailleurs extraordinairement assombri, qui est le navire. Et cette dimension spectaculaire, on la comprend bien lorsque l'on étudie les esquisses du radeau. Qui s'intitule en réalité l'espoir d'ailleurs, hein, non pas le radeau de la Méduse. C'est que le bateau, au fur et à mesure des esquisses, vous voyez, disparaît, s'éloigne sur l'horizon. L'espoir est à chaque nouvelle esquisse plus ténu dans la mesure où ce qui le supporte est plus lointain. Hein. Et pour finir, c'est une tâche qui doit faire 2 cm sur 1,5 dans le tableau du Louvre. Hein. Pardon. Donc, Jéricho exploite parfaitement les recettes de la peinture d'histoire, les abattardit en quelque sorte avec les techniques de la peinture de panorama, qui est une peinture de foire, enfin, littéralement, enfin, au sens propre, c'est-à-dire que les panoramas sont mobiles et s'implantent dans les foires, un peu, je ne sais pas moi, comme les simulateurs de vol aujourd'hui ou les cinémas en 360 degrés il y a 20 ans. Enfin, vous voyez, c'est véritablement un spectacle technologique, en quelque sorte. Donc, il introduit toutes ces techniques de la peinture de panorama. Et en même temps, il exploite toutes les ressources de la composition avec deux grands motifs pyramidaux qui rythment parfaitement chacun des tiers du tableau, et puis les enchevêtrements de membres donc, qui guident notre regard. Et il exploite également cette temporalité particulière qu'est la contemplation d'une toile de grande dimension, qui prétend en permanence ne saisir qu'un seul instant, mais qui, en réalité, offre une temporalité étendue qui est celle du parcours de l'œil. Ce pourquoi nous commençons par cette vague et que nous finissons par le but, qui est l'espoir de ce bateau. Et cette maîtrise, d'ailleurs, apparaît très clairement lorsque l'on inverse, lorsqu'on renverse le tableau. L'espoir s'amenuise, là, pour le coup, en désespoir, puisque ce sur quoi nous achevons notre lecture, c'est évidemment à la fois cette lame gigantesque, la nuée qui la surplombe, et le radeau désemparé qui fonce à toute voile vers ce destin sinistre. Donc on a une image totalement construite et une image qui tente une alliance inédite à l'époque d'un système théâtral et spectaculaire, avec un registre traditionnel et héroïque. Et ce qui peut-être achève d'instaurer cette dimension parodique qu'il y a dans le radeau de la Méduse, cette parodie de peinture d'histoire, c'est le sujet lui-même. Le sujet ne peut pas être un sujet de peinture d'histoire, c'est une histoire sordide. C'est un truc de... C'est la glorification de gens qui sont anthropophages, qui en plus étaient des losers politiques. Enfin, ils avaient perdu, c'était des républicains, on les envoyait en Afrique reprendre Saint-Louis du Sénégal, enfin, oui, c'est ça, le comptoir de Saint-Louis. Enfin, c'est certainement pas des gens qui peuvent prétendre à une représentation historique, nationale, étatique, officielle. C'est au contraire un sujet éminemment polémique. Le tableau est montré au salon de 1819, alors que le procès de Chaumaret s'achève à peine. Et que d'ailleurs, il y a d'autres procès ensuite. Mais enfin, donc, si vous voulez, le principal problème entre guillemets du radeau de la Méduse dans son contexte d'apparition, c'est à la